Radio Kapi.
Les informations avec Belinda Bosuma.
Déjà 5 000 morts et environ 2 millions de déplacés en Ituri depuis 2017. Le député national Gratien Iratxan dénonce l'indifférence de la communauté internationale et l'inaction du gouvernement. Il a ainsi initié une marche ce matin à Bounia avec une centaine d'habitants pour exprimer le ras-le-bol. Inondation de plusieurs villages du groupement Mukupa dans le territoire de Pueto, province du Haut-Katanga. De nombreux champs sont aussi détruits par les fortes pluies qui s'abattent sur cette région depuis janvier dernier. Les populations locales redoutent la famine dans les mois qui suivent. Et puis, l'invité de ce midi, Ahmad Yassoumani, responsable de la régie des voies fluviales RVF, tronçon Kindu-Bundu dans le Maniema. Il nous parle du débordement des eaux du fleuve Congo observé ces derniers temps dans la province, situation qui affecte les populations environnantes. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Une centaine d'habitants s'y sont rassemblés ce jeudi matin au rond-point TMB, proche du quartier général de la MONUSCO à Bounia. C'est pour exprimer leur ras-le-bol face à la persistance de l'insécurité dans cette province. C'est à la suite du mot d'ordre lancé par le député national Gratien Iratxan, qui parle d'environ 5000 personnes tuées depuis 2017. Dans un mémorandum dont une copie remise au leadership de la mission onusienne, cet élu dit fustiger l'indifférence de la communauté internationale face aux crimes commis en Ituri par les groupes armés. Ezekiel Mouzalia, reportage.
Des dizaines de militants du parti Ensemble pour la République et d'autres couches de la population avec des bandeaux rouges sur la tête ont envahi le boulevard de la Libération à Bounia avec comme point de chute le quartier général de la MONUSCO où une équipe a déposé leur mémorandum. Dans ces documents lus par le député Gratien Iratxan devant le public au rond-point TMB, on avance un chiffre de 5000 morts et environ 2 millions de déplacés en Ituri depuis 2017. Les manifestants dénoncent le mutisme de la communauté internationale et l'inaction du gouvernement face à ce qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Il demande au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures contraignantes pour mettre fin aux violences des groupes armés. Le député national Gratien Iratxan.
La communauté itourienne s'indigne que toutes ces exactions se commettent à l'indifférence totale du gouvernement congolais. Nous vous demandons donc d'adopter des résolutions contraignantes pour l'arrêt définitif des hostilités.
Certaines maisons de commerce ont fermé leurs portes ce matin à Bounia par peur des débordements des manifestants. Un fort dispositif de policiers a été déployé aux alentours de la base de la MONUSCO et dans certains coins de la ville de Bounia pour encadrer la marche et éviter des bavures. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, faire comprendre les populations locales du territoire de Nyiragongo, le mandat et la mission de la MONUSCO en RDC. La question était au centre des échanges lors d'une journée porte ouverte tenue hier à Goma entre la MONUSCO, le commandant second des opérations Sokola 2, ainsi que les membres de la société civile du territoire de Nyiragongo. C'est dans l'objectif de contribuer à la reconstruction du climat de confiance entre les populations locales et la MONUSCO afin d'éviter la désinformation et des rumeurs. Le compte-rendu de Bernardine Diambo.
38 membres de la société civile du territoire de Nyiragongo, dont 7 femmes et des officiers militaires de FARDC, ont participé à cette journée porte ouverte. Le chef de bureau de la MONUSCO Goma a dit intérim, Julius Fandong a éclairé les participants sur le rôle de la MONUSCO dans le cadre de son mandat de protection de la population civile. Initiative qui a été saluée par les participants des différentes couches de la population du dit territoire. Le président de la société civile, Mambo Kawaya, s'exprime.
C'était vraiment une activité de grande envergure selon nous, parce que des questions eu quand même des réponses convaincantes. Dans l'objectif de faire comprendre à la population ce que fait la force de la MONUSCO et ce que fait la force des FARDC ensemble avec la MONUSCO pour que nous tous nous ayons une même compréhension pour que nous évoluions ensemble dans la recherche de la paix et la sécurité.
Certaines sections de la MONUSCO dont les affaires civiles, le DDRRR, la protection de l'enfance et les affaires politiques ont fait également des présentations sur leur réalisation. Pour sa part, le commandant second de Sokola D a communiqué sur la accompagnement de la MONUSCO pendant les opérations contre le M23. Par ailleurs, le commandant des contingents indiens a également présenté les réalisations de projets d'impact rapide mis en place par la force dans le cadre de la protection des civils et les patrouilles organisées conjointement avec les FARDC. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Sud-Kivu, des centaines de cas de violences sexuelles ont été enregistrés l'année dernière contre les enfants dans cette province. Depuis le début de l'année 2023, plus de 30 jeunes filles ont été victimes de violences sexuelles par des parties en conflit dans la province. Des chiffres qui ne représentent qu'une partie de la réalité aggravée par la situation des conflits armés. Constat de la chef du programme Protection de l'enfant de l'UNICEF en mission à Bukavu, Ramatou Touré affirme que la situation des violences sexuelles au Sud-Kivu est très préoccupante. Elle l'a dit au micro de Rachel Kiesembango.
On sait que les violences sexuelles contre les enfants sont particulièrement terribles pour ces enfants. Si on prend donc la situation du Sud Kivu, on a une situation préoccupante. On a plusieurs centaines de cas de violences sexuelles qui ont simplement été assistés au cours des premiers 6 mois de l'année dernière. On a une situation qui est aggravée aussi par la situation de conflit armé, donc on a des violences sexuelles qui sont liées directement au conflit ou par les parties au conflit. Il faut savoir par exemple que depuis le début de l'année 2023, il y a eu à peu près au moins plus de 30 jeunes filles qui ont été victimes, en tout cas qui ont été vérifiées par le système des Nations Unies comme ayant été victimes de violences sexuelles par des parties au conflit. Ce chiffre est important parce qu'on sait que les violences sexuelles ne sont pas rapportées. Les femmes, mais surtout donc les enfants ont peur, ils sont stigmatisés, donc on sait que les chiffres même que nous avons ne représentent qu'une partie minime des cas qui existent. Et on a une réponse qui a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a une réponse holistique. C'est une réponse, en fait, on apporte de l'assistance médicale, évidemment, y compris la prévention du VIH. On a une réporte aussi au niveau psychosocial, porte aussi de l'assistance juridique, de manière à lutter contre l'impunité. Et on a aussi tout un volet de réintégration et de réinsertion.
Direction la province du Haut-Katanga. Je vous l'ai dit dans les titres, plusieurs villages du groupement Mukupa, secteur de Kilwa, territoire de Pweto, sont inondés. De nombreux champs sont aussi détruits par les fortes pluies qui s'abattent sur cette région depuis le mois de janvier dernier. Les populations locales redoutent la famine dans les mois à venir. Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire de Pweto a promis de s'exprimer sur cette question très prochainement. Le récit de Jean Ganduka Bongo.
Les sources locales rapportent que ce sont plus de 2000 champs qui sont inondés. Ces champs sont situés dans plusieurs villages dont Mukupa, Kaonga, Kakumbwe, Tendemwenze, Mulinde, Moussa et Kimbaya. Dans ce groupement, le maïs et le manioc sont les denrées de base. Cependant, sur le marché local, un seau de maïs qui se vendait à 1000 francs congolais se négocie actuellement à 4500. Le seau de manioc qui coûtait 500 francs congolais revient à 2500. Ce prix ne sont plus à la portée de tout le monde, rapportent certains habitants contactés. Au regard du désastre causé par les eaux des pluies, les populations locales redoutent la famine. Dans ce village, on compte aussi plus de 1600 maisons détruites. Les unes se sont écroulées et les autres ont vu leurs toitures emportées. Du coup, plusieurs personnes sont sans abri. La plupart sont dans les familles d'accueil, les autres essayent du peu qu'elles peuvent pour se créer des logis de fortune. Les plus courageux ont fait mouvement vers d'autres villages. Au regard de tout ceci, les habitants de ce village lancent un SOS aux autorités et aux humanitaire.
Nous avons besoin de l'aide. Il y a des familles qui n'ont pas de demeure.
Au gouvernement des ONG, de venir nous aider ici à Mukupa, les gens sont en train de souffrir. Même les enfants passent des nuits dans de mauvaises conditions.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Restons dans le Grand Katanga, cette fois au Tanganyika. Les autorités du territoire de Manono ne parviennent pas à refouler des troupeaux d'éléphants en divagation dans les secteurs de Kamalondo et de Kiofwe. D'après le chef de secteur de Kamalondo qui s'est confié ce jeudi à Radio Kapi, les moyens qu'ils utilisent ne sont pas suffisants pour refouler ces pachydermes. Il annonce par la même occasion la mort hier d'une femme qui a été piétinée par des éléphants dans son secteur. Il sollicite l'intervention de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, pour le refoulement des éléphants. On écoute Delphin Kiabou Yanshima, chef de secteur Kamalondo, joint par Paulin Munanga.
Je suis à Manono en mission de service. Mon intérimaire m'appelle, il me dit qu'il y a encore un autre éléphant qui vient d'écraser une femme dans le village de Kilato à 18 km d'Ankoro. Les amis qui sont en train de refouler des agents de l'environnement ne sont qu'à 2 personnes seulement. Ils ont qu'un seul arme que la police avait cédé et pas même beaucoup de cartouches. Maintenant, quand ils refoulent de ce côté, les animaux partent de l'autre côté. C'est pourquoi nous avons demandé à l'autorité si on pouvait faire une grande démarche pour que les amis de l'INSS, là, chargés de la conservation des antilles, prennent des dispositions pour venir diriger les bêtes au niveau du parc. Le refoulement ici ne fera rien. Le troupeau est vaste, ça complique plus les cultivateurs et même la vie humaine des personnes. C'est un troupeau qui fait maintenant dans les territoires de Manono presque la quatrième année. Ils venaient du parc et maintenant ils se sont multipliés. Il n'y a personne qui est autorisé à tuer. Maintenant, et quand on les protège, maintenant, commencent à tuer les humains.
Direction le Kasaï central. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, avec l'appui de l'ONU SIDA et d'autres partenaires, a organisé hier à Kananga une journée de réflexion autour de la discrimination zéro dans la lutte contre la maladie. Cette activité a été initiée à l'intention des ONG locales qui interviennent dans cette lutte et les programmes spécialisés du gouvernement. À en croire le coordonnateur provincial du PNMLS Kasaï central, le souci est de permettre aux PVV, personnes vivant avec le VIH, d'avoir accès aux soins sans distinction ni discrimination. Le coordonnateur provincial du PNMLS Kasaï central, Jean-Carré Manchimba, est au micro de François Kadima.
Quelqu'un qui est stigmatisé, discriminé, ne sait pas accéder au service des soins. Les réalités de l'heure font état de deux nouvelles initiatives qui sont dans la lutte. C'est l'initiative appelé Partenariat mondial pour l'élimination de la discrimination et la stigmatisation et l'Alliance mondiale pour l'élimination du VIH pédiatrique. Mais dans ce cas, nous sommes réunis pour le Partenariat mondial pour l'élimination de la discrimination. Nous avons voulu réfléchir avec tous les partenaires du secteur privé, public, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des agents du système des Nations Unies. Ensemble, nous puissions réfléchir, trouver des recommandations qui vont permettre à pouvoir orienter la lutte. Notre province est retenue parmi les provinces pilotes de l'initiative de partenariat pour l'élimination de la discrimination et de la stigmatisation. Nous sommes une province prioritaire et pilote. C'est ce qui nous a mobilisés avec l'appui de l'ONU SIDA et du PNUD.
Dans la province du Maniema, le réseau des médias pour le développement REMED, avec l'appui financier de l'UNICEF, est engagé à récupérer plus de 3182 enfants ayant échappé au calendrier vaccinal dans la zone de santé de Kailo. Après la formation des journalistes, les membres de l'équipe cadre de la zone de santé de Kailo, les infirmiers titulaires et leurs adjoints, les supérieurs de proximité, les facilitateurs locaux et les autorités politico-administratives ont été formés sur les pratiques familiales essentielles. Le médecin un chef de zone de santé de Kailo s'est réjoui des nouvelles philosophies du REMED et s'attend à des bons résultats. Docteur Kuba Michael est au micro de Florence Kizalunga.
En tout cas, nous avions la foi et nous avions aussi la conviction. Par expérience aussi des REMED, on a eu d'abord des ententes par rapport à la philosophie qu'ils vont mener pour mettre à bout leur projet. Et nous les avons aussi conseillés par rapport à ce qui n'a pas marché. Et depuis qu'on a commencé, il y a un partage sincère des informations, il y a un chronogramme qui a été fait. Et je pense que c'est vraiment un bon pas par rapport à ce que REMED a fait. Et nous les félicitons pour ça. Pour les agents formés, les matières, on les a quand même simplifiées pour qu'ils ne soient vraiment pas complexes à leur niveau, parce que nous savons qu'on devrait utiliser les communautés locales, parce que nous voulons créer un dynamisme qui doit être le pont entre la population et les centres de santé. Pour toute la population, c'est d'abord une joie pour voir que l'UNICEF, qui est un partenaire privilégié de la zone, est en train aussi de répondre aux problèmes posés par la même population. C'est-à-dire que cette population va se retrouver avec ces projets à avoir des souplesses dans l'utilisation des services et ce sera pour nous une satisfaction.
Autre nouvelle, à Kinshasa, cela fait plusieurs mois que la route appelée route de la Deuxième République est dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, les habitants de la commune de Kimbansé qui vivent un véritable calvaire pour se déplacer. Chris Bandundu Kapalai nous en parle dans ce reportage.
Située entre le cimetière de Kimbanseke et la place Sainte-Thérèse, la route de la Deuxième République, comme on l'appelle, est dans un puté état. Chaque jour, la population de ces coins est dans l'obligation de faire de longues distances à pied pour atteindre Sainte-Thérèse en vue d'attraper un transport pour se rendre soit au travail ou à l'école. Selon les témoignages recueillis sur place, les délabrements avancés de cette voie est surtout dû aux travaux de placement des tuyaux d'adduction d'eau vers l'usine de Lemba Imbu par la régie des eaux. Chauffeur de son état, Hugues Petit explique la souffrance qu'il endure au quotidien. Nous, dans la commune de Kimbantseke, nous souffrons dans cette route. La route est mauvaise, à partir de Sainte-Thérèse jusqu'à arriver sur notre tronçon de Kimbantseke cimetière. Nous demandons aux autorités de la ville d'avoir pitié de nous. Jean-Pierre Kiasala, un autre habitant de Kimbantseke, suivez son témoignage. Cette route était passable jusqu'au moment où les gens de l'adduction d'eau sont venus, ces Coréens ont cassé les macadam à partir du cimetière jusqu'à Dokolo. En contrepartie, ils n'ont rien fait. Les habitants des Kimbantseke disent attendre impatiemment l'intervention des autorités.
Actualité internationale.
Sixième jour de combat au Soudan suite à l'échec du cessez-le-feu entre l'armée et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide RSF. C'est la deuxième fois que le cessez-le-feu n'est pas respecté. Des milliers d'habitants ont fui la capitale Khartoum. Il en est de même pour quelques 320 soldats qui ont été arrêtés au Tchad voisin. J'ai déjà 320 soldats qui sont sur notre territoire, leurs militaires. Il y a sans doute des civils, donc nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit logé convenablement, a déclaré le ministre tchadien de la Défense.
L'invité.
Il nous vient du Maniema, Amadi Assoumani, responsable de la régie des voies fluviales tronçon Kindu-Bundu. Il nous parle du débordement des eaux du fleuve Congo observé ces derniers temps dans la province du Maniema, situation qui affecte les populations environnantes et justifie cela par le changement climatique et l'occupation illicite par la population des lits du fleuve Congo. Amadi Assoumani s'entretient avec Florence Kiza.
Monsieur Amadi Assoumani Asuka, bonjour.
Bonjour madame.
Nous avons constaté que les eaux du fleuve Congo semblent avoir quitté leur lit ces derniers jours. Confirmez-vous cette nouvelle?
Non madame. Depuis avril 2020, l'RVF Kindu a informé la population de la ville de Kindu qui a crié d'eau à la suite de l'abondance des pluies diluviennes qui ont débordé le fleuve Lualaba et inondé des maisons environnantes construites sur la berge du fleuve au mépris de la réglementation qui oblige de s'éloigner de plus de 10 mètres de la ligne formée par les niveaux les plus élevés qu'atteignent les eaux dans leur période de crue normale. C'est ça, il y avait même un arrêté provincial de 2020 portant mise en exécution des dispositions sur les servitudes dans la province du Maniema. Aucune occupation ou construction n'est admise dans les servitudes. Tu peux dire il y a débordement, il y a quoi? Non, l'eau est en train de naviguer dans son lit habituel.
Construction anarchique, à qui la faute?
Bon, la construction anarchique incombe toujours à l'État. Parce que les gens ne sont pas autorisés à ériger des habitations aux servitudes. Mais ici chez nous, ça devient une habitude. C'est comme s'ils sont en train de vendre des marchandises. À chaque période, on leur donne de l'argent. Au lieu de quitter cet endroit, ils habitent toujours en attente d'autres sommes d'argent. Nous leur avons conseillé depuis lors de vider ces liers. Ce n'est pas habituel. Au moins 100 mètres de la rive, il n'y avait pas de maison d'habitation. Mais nous demandons toujours à nos autorités de s'impliquer et de faire déplacer ces gens dans un autre endroit.
Maintenant, comment expliquez-vous ce phénomène? C'est un phénomène annuel où il y a un cycle précis pour ça?
Bon, phénomène que nous venons de constater récemment, c'est dû au changement climatique. Même au niveau de notre direction du BF supérieur au niveau de Kalemi, le lac Tanganyika aussi a déjà débordé. C'est un phénomène, auparavant, on calculait des temps, mais suite aux perturbations météorologiques et hydrologiques de notre pays, nous subissons des conséquences au changement climatique. Parfois, on voit commencer à subir des inondations à répétition. Il faut s'attendre à ça. C'est partout au monde où ça se passe.
Et au niveau de la navigation, est-ce que cette situation a des conséquences?
Bon, nous avons des périodes dans une année. Il y a une période de crue et une période de décrue. D'ailleurs, c'est à cette période où la régie des voies fluviales se repose un peu par rapport à la période de décrue. Les navigants, d'ailleurs, ils adorent naviguer pendant le crue, l'augmentation des eaux, parce qu'ils vont naviguer comme ils veulent. Bon, vous voyez, nous avons des signaux de rive à qui nous plaçons nos indices. indiquant comment naviguer dans notre boulevard liquide. Mais les navigants dans cette période, ils font des raccourcis. C'est d'ailleurs une période où ils gagnent beaucoup par rapport à la période des décrits.
Mais c'est à ce que vous venez de dire qu'à cette période, c'est avantageux pour les navigateurs. Maintenant, pour ceux-là qui habitent le long du fleuve Congo, c'est aussi avantageux pour eux?
Non, c'est dommage. Je leur demande de dégager au plus de 120 mètres de la rive. Sinon, ça va nous causer d'autres préjudices ou d'autres problèmes dans notre province. Ils devraient nécessairement se préparer à conséquence de dégager ces lieux avant temps.
À part cette précaution de dégager, de s'éloigner des lits du fleuve Congo, quelles autres précautions faut-il prendre pour ceux-là qui habitent le long du fleuve Congo?
J'en appelle une fois de plus à la même population de prendre toutes les dispositions du fait que le mois d'avril est généralement le plus fatidique, le plus désastré, car il enregistre une plus forte pluviosité et qu'il serait très dangereux à toute la population qui continue à observer les spectacles qu'il adviendrait. Vous voyez, le code foncier de notre pays, à son article 16, dispose ce qui suit. Les lits de tout lac et celui de tout cours d'eau, navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de l'État. C'est ça. Mais je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que ces gens sont autorisés de venir ériger des habitations juste à l'emprise du fleuve ou à l'emprise d'un cours d'eau.
Monsieur Amadi Assoumani, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Le responsable de la régie des voies fluviales, Tronçon Kindu Bundu dans le Maniema, répondait aux questions de Florence Kiza. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikotachi Vueta, supervision de Martin Sebujangwe, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.